Oui, bonjour. C'est la deuxième partie de la soirée du 17 avril 2026 à la Bourse du Travail, soirée organisée, on l'a dit, par le journal Le Chiffon, journal indépendant qui diffuse des informations en Île-de-France. La première partie que vous avez peut-être écoutée, c'était Gary qui interviewait, s'entretenait avec Marie Garin et Nicolas Aiguisier. Et là, nous sommes avec Colline du Chiffon également, et qui va parler avec quatre personnes, les quatre projets en cours en Île-de-France. Adil pour le projet au Bourget, Merlin pour le projet à Vitry-sur-Seine, Pauline pour celui de Fougeux et Philippe pour celui de Vissous en Essonne. Voilà, c'est un petit tour de l'Île-de-France avec les quatre projets. Les sujets abordés vont être nombreux, tant sur la question de quels sont les risques actuellement identifiés par tous les collectifs, et puis la façon dont ils luttent et dont nous pouvons rejoindre ces luttes, nous toutes. Bonne écoute.
Alors, on est très heureux de recevoir les collectifs de nos camarades du Bourget, de Vitry-sur-Seine, de Fougeux et de Vissous. D'abord parce que ça nous a permis d'apprendre deux noms de villes, parce qu'on connaissait ni Vissous ni Fougeux. Et ensuite parce que il y a vraiment une logique pour nous, au Chiffon, de permettre à des gens qui, dans leur vie quotidienne, lutte contre des mêmes thématiques ou contre une même organisation du monde, mais qui sont de fait géographiquement séparés, il y a une vraie logique à nous faire la chambre d'écho en tant que lieu éditorial. Ouais.
Je parle fort.
Ah d'accord. Ok.
Mais peut-être qu'il faut que je chuchote. Ça va donner un côté un peu intimiste, comme ça. On va parler lutte, d'accord?
Donc, je reviens brièvement sur le fait que nous, au Chiffon, on s'est constitué comme espace éditorial pour d'abord documenter les impensés qui constituent la région Île-de-France. C'est dur avec la voix douce, mais... Donc, nous, on voulait documenter les impensés de ce qui constitue la région Île-de-France. Impensés, évidemment, biorégionales, impensés dans l'autonomie, impensés dans un possible décrochage de la logique des flux capitalistico-générateurs de dépendance qui nous alimentent. Et on voulait militer pour la lecture sur d'une presse papier locale de qualité et militer en donnant aux gens, juste à nos lectrices et à nos lecteurs, des motifs de nous lire. Or, de bons motifs de lire, c'est d'être intéressé par ce qu'on lit, et contre l'hébétude généralisée du numérique, il nous a semblé que vraiment les luttes de conséquences que sont par exemple celles contre les data centers, c'était assez déterminant. Donc, quand on regarde la carte que vous trouvez dans l'excellent numéro 18 qui fait la critique de la transition écologique, comme terme, la grande carte sur les data centers a déterminé l'ordre dans lequel j'ai proposé à mes camarades de s'installer. Puisque c'est un espèce de... Vous voyez ce que c'est qu'une lune gibbeuse avec un gros ventre? Là, c'est un croissant de lune un peu gibbeux parce qu'on commence au nord-nord-est de Paris avec le Bourget. On descend vers Vitry. On retourne un peu, puis on redescend encore au fin fond du 77 et on revient en Essonne avec Vissous. Et en fait, dessiner cet arc de lutte montre quand même que la chose a un peu d'extension. Alors, je voudrais placer cette invitation aussi sous l'égide d'une réflexion d'une collègue de Marie qui travaille également, enfin qui est elle doctorante au Centre Internet et Société du CNRS, Ophélie Coelho, qui, à l'occasion d'une émission de France Culture sur l'IA et ses usages, concluait que plutôt que de se fier à une réglementation européenne, donc Ophélie Coelho, pardon, a écrit un livre qui s'appelle Géopolitique du numérique, et elle disait plutôt que de s'en remettre aux législations européennes ou nationales pour nous protéger contre d'éventuelles catastrophes de l'IA, mieux vaut rejoindre tous les groupes qui luttent localement contre, par exemple, l'implantation des data centers. J'ai trouvé que c'était une bonne introduction. Et on va commencer avec Adil. Donc, toi, tu es au Bourget. Et alors, une des premières choses que tu m'as dites quand on s'est rencontrés, une première chose que je t'ai demandé, c'était comment est-ce que vous avez eu connaissance d'un projet d'implantation de data center chez vous?
Alors, ça fonctionne ou pas? Ouais, c'est moins fort. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci au Chiffon de nous avoir invités. Du coup, on l'a appris un peu par hasard parce que tout a été fait pour étouffer ce projet. Donc, on l'a appris lors de l'enquête publique, ils sont obligés de la publier en fait, donc dans le journal municipal. Donc, il y a une personne en fait qui est de la ville qui est tombée dessus par hasard et qui a commencé à informer les gens autour d'elle en fait. Et puis, c'est comme ça qu'on a découvert. Donc, très très vite, on s'est constitué en collectif et on a commencé à tracter, à essayer d'informer informer les gens. Donc il faut savoir que l'enquête publique, elle a été faite pendant les vacances de la Toussaint dernière, donc à mon avis c'était pas un hasard, les gens n'étaient pas là. Donc pendant les premières permanences de l'enquête publique, il y avait à peu près personne, comme ça a pu être le cas sur des projets similaires dans des villes à proximité. Et à la dernière permanence de l'enquête publique, il y avait une quarantaine de personnes dans une toute petite salle. La salle, tout le monde était chauffé à blanc, tout le monde était en colère. Il y a eu presque 300 contributions au registre numérique. Donc la commissaire enquêtrice nous a dit qu'elle n'avait jamais vu ça, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a appris. Et
comme ça que vous avez mobilisé, du coup. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est que là, ce que tu décris, donc c'est quand même, il y a une belle participation à l'enquête publique qui, de fait, conclut sur ce refus, c'est ça, ou c'est pas encore? Alors, c'est ça, oui, c'est un peu la subtilité. Pardon. Attends, excuse-moi, j'ai mal posé ma question. Pour mobiliser les habitants, dans les affiches et les tracts que vous avez distribués, qu'est-ce que vous avez mis comme thématique en avant pour informer?
Alors, y a eu plusieurs thématiques. Alors déjà d'une, évidemment, il y a eu toutes les problématiques de nuisance, que ce soit en termes de nuisance sonore, en termes de rejet, de pollution, de gaz à effet de serre, etc. Donc évidemment, on a parlé de ça. On a aussi parlé du fait qu'il n'y a eu absolument aucune concertation et qu'on n'a pas été prévenu, en fait. Et ça a été aussi le cas dans des villes juste à côté, que ce soit la Courneuve ou le Bourget. Les municipalités ont un peu fait la même chose. On a un peu passé le projet en catimini comme ça. C'était sur ce un peu ce déni de démocratie, en fait, où on n'est pas consulté, on n'est pas prévenu, on n'est même pas prévenu, quoi. Et sur les nuisances
physiques, sensorielles.
Le data center, il faut savoir qu'il est à proximité immédiate de pas mal de collectivités, des écoles, des crèches, des maisons de retraite, des habitations. Donc les fenêtres des premiers riverains sont à moins de 30 mètres du projet. Donc on a beaucoup insisté là-dessus, sur la densité du tissu urbain.
Et il me semble que vous évoquiez aussi les risques, parce que sur cette argumentation, comment mobiliser des gens qui ne sont pas déjà en lutte ou déjà informés, donc la notion de cadre de vie, le sentiment d'injustice en face d'un déni de démocratie, et le dernier aspect, je crois que c'était sur les risques aussi que vous insistiez dans votre argumentaire.
Alors oui, évidemment, c'est vrai qu'il y a les nuisances au quotidien, voilà, les groupes électrogènes, les îlots de chaleur, les groupes électrogènes qui rejettent des polluants. Évidemment, il y a les nuisances au quotidien, les groupes électrogènes, la pollution, les nuisances. Mais évidemment, il y a aussi la question des risques qui se posent dans une ville, enfin dans un environnement aussi densément peuplé avec des publics fragiles. Qu'est-ce qui se passe si on a un incendie de type OVH?
enfin, qu'est-ce qui se passe si... Enfin, on l'a vu typiquement, il y a eu un cas en Corée du Sud où il y a une batterie au lithium qui a causé un incendie dans un data center. Ils ont mis plus de 20 heures à l'éteindre. Donc le maire de l'ancienne municipalité à l'origine du projet nous a assuré qu'en cas d'incendie ou d'explosion, tous les dégâts resteraient strictement confinés dans la zone du data center. On a du mal à le croire. On en doute un peu. Donc clairement, oui, ça a été un des axes aussi.
Oui. Pardon. Et donc sur la responsabilité, là, pour le coup, de l'ancienne équipe municipale, enfin, très engagée, puisque ils ont signé un PLU, et vous avez encore en ce moment quand même une latitude d'agir, parce que ce que vous m'expliquez, c'est que le PLU est soumis à la délivrance d'une autorisation environnementale qui serait délivrée par le préfet. C'est ça ?
Alors oui, le maire à l'origine du projet a validé le permis de construire, mais tant que l'autorisation environnementale n'est pas fourni par le préfet, bah, le permis de construire ne peut pas être affiché et les travaux ne peuvent pas commencer. Donc l'autorisation environnementale, le dernier délai c'est fin juin. Donc pour l'instant c'est en stand-by, il n'y a pas de... Le projet ne
bouge pas.
Ne bouge pas, exactement.
Voilà, et cette suspension est aussi quand même confortée par le fait que l'ancienne équipe municipale a perdu aux dernières élections et que là ça serait un édile qui serait plutôt contre, c'est ça ?
Alors oui, exactement. Donc le nouveau maire du Bourget était un membre du collectif. D'ailleurs, il doit toujours l'être. Il est dans notre groupe. Donc il nous soutient depuis le début. Et c'est vrai que nous aussi, on l'a beaucoup soutenu, surtout entre l'entre-deux tours. Et alors que le maire sortant était archi favori, c'est le candidat contre le data center qui est passé. Donc je trouve que c'est extrêmement encourageant parce que ça envoie un message vraiment fort, c'est on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a un moment, les citoyens peuvent dire bon bah non là en fait c'est pas possible.
Ouais. Merci beaucoup pour cette note. C'est pas mal de finir là-dessus. On veillera quand même à la réponse du préfet fin juin peut-être, parce qu'on n'est jamais sûr. Merci. Donc là, on est au Bourget et c'est quand même une jolie fin d'histoire, enfin pour l'instant, ou en tout cas une histoire suspendue. Alors, on descend dans le sud de Paris, à Vitry-sur-Seine, riante banlieue, d'où tu viens, Merlin, et où est en projet un data center dont tu vas nous décrire peut-être les caractéristiques, parce qu'il s'implante sur une zone dont a priori on ne saurait pas quoi faire. Je te laisse la parole.
Merci. Ouais, alors, bon, je viens pas de Vitry, j'y suis depuis pas très longtemps et j'ai assez vite été mis au courant de l'histoire de Data Center parce qu'elle a été décidée par la municipalité il y a pas très longtemps et c'est des élus d'opposition qui ont alerté sur le sujet. La spécificité de Vitry, c'est qu'on est sur une des dernières grosses villes communistes de France et que c'est le maire qui est en faveur de ce projet et d'un certain nombre d'autres trucs qui consistent à utiliser son territoire pour servir l'intérêt, des puissants et pas trop l'intérêt de sa population, ce qui est un peu paradoxal quand c'est un communiste soutenu par des écolos. Du coup, le site en question, on pourrait dire qu'il est parfait pour un data center parce que c'est un site dont la ville ne sait pas quoi faire depuis très longtemps, c'est un ancien dépôt pétrolier. Donc il faut imaginer 5 ou 6 énormes cuves à fioul. De grandes comme un immeuble de 5 à 6 étages qui ont été gérées par BP et par l'État français et qui servaient de stockage de pétrole pour la capitale parisienne au siècle dernier principalement. Et donc en fait, initialement, ils cherchaient quelqu'un pour dépolluer le site. Et l'idée merveilleuse qu'ils ont eue, c'est que comme il y a du fric pour construire des data centers, eh bien, ils ont trouvé quelqu'un pour dépolluer le site qui va le revendre ensuite à un data center. Mais on ne sait pas qui ce sera. Donc, on a un site d'à peu près 3 hectares qui va servir à des data centers et où d'abord il va y avoir de la dépollution. Alors, le repreneur, c'est un certain Brownfield, qui est une entreprise française, contrairement à ce que son nom indique, et qui fait de la dépollution, mais alors la dépollution, ils la font pas très bien. Ils dépolluent un site, par exemple, à La Rochelle, où ils ont dû suspendre leurs travaux suite à un arrêté préfectoral parce que les habitants autour avaient des problèmes pulmonaires et des vertiges. Voilà. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, quand on dépollue un site, on casse les bâtiments, on remue la terre, etc. Et on ne met rien autour. Comme ça, du coup, les poussières polluées circulent dans l'air et finissent directement dans nos poumons. Alors, on aurait pu mobiliser là-dessus initialement, et on a eu les mêmes problématiques que les copains du Bourget, à savoir démocratie, puisqu'on a un maire qui a même pas été élu initialement en 2020. Il a fait un putsch pour remplacer le maire qui devait être élu. C'est assez marrant, vous pouvez regarder l'histoire. Mais du coup, lui, il fait pas du tout dans la consultation démocratique, il s'en branle, quoi. Et le truc, c'est que ça a pas mal agacé les gens, et puis ça a beaucoup agacé les gens aussi sur la facture d'électricité et l'eau. Ils ont choisi un site parfait parce qu'on est à côté d'un échangeur électrique d'EDF et on est à côté de la Seine. Donc ils vont avoir tout ce qu'ils veulent pour bien refroidir, pour bien alimenter leur data center, ça sera super. Et le maire, il vend ça génial, il dit ouais, on va avoir de l'argent grâce aux impôts locaux et on va même, tenez-vous bien, construire une salle des fêtes municipale dans le data center. Géant. Sachant qu'en fait, en face, il y a déjà un tiers lieu qui s'appelle le Kilowatt, où il y a des gros stuff, qui est un haut lieu de la techno et tout ça d'Île-de-France. Et donc, en fait, cette salle des fêtes, elle a un peu vocation à le remplacer. Pourquoi ? Parce qu'au dernier moment, un mois avant qu'on lance l'action contre le data center, on apprend, un peu dans la presse, un peu dans des délibérations du département, qui va faire un méga incinérateur sur le terrain juste en face. Parce que la mairie de Paris lui a demandé un site, ils appellent comment ça ? Des biodéchets, vous savez, on va brûler des biodéchets pour chauffer les Parisiens. Ce qui nous a fait trouver parmi nos différents slogans, le fait que Vitry n'est pas la colonie de Paris. Hein, voilà. Que ce soit pour les data ou que ce soit pour l'énergie, nous ne voulons pas que notre ville ouvrière, que notre ville populaire serve, eh bien, la capitale voisine. Et cette logique de territoire servant, qui est quand même historique dans toute la banlieue parisienne, eh bien, elle continue avec les nouvelles formes de l'industrie, qui sont effectivement greenwashées, hein, c'est-à-dire que on appelle un incinérateur une usine de biomasse, on dit que le data center c'est propre parce que ça produit pas d'énergie de gaz à effet de serre, mais en fait, on est toujours dans l'extractivisme, on est toujours dans l'utilisation des territoires contre les habitants et pas pour eux, et ça, c'est extrêmement grave.
Non, mais c'est bien parce que là, il a répondu à 3 questions en une. Moi, je sais. Non, alors peut-être pas. En revanche, donc toi, tu fais partie d'un mouvement qui s'appelle PEPS, pour une écologie populaire et sociale à Vitry. Vous faites partie avec, en tant que PEPS, avec le collectif Acide, dont tu vas nous dire un mot, des gens qui luttaient contre cette double implantation. Et peut-être on reviendra alors. Je sais pas, j'ai raison si je dis Mathieu Rigouste sur la pensée de la métropole comme colonisant. Ça fait partie des inspirateurs ou pas spécialement ? Ok. Parce que donc ce thème de la colonie, donc auquel Marie disait qu'elle, enfin, dont elle voulait pas se servir, vous voulez faire réagir sur l'injustice qu'il y aurait à être uniquement territoire servant, territoire de déchets, etc. C'est ça. Et donc, si tu peux revenir sur PEPS acide et cette congruence ou cette incohérence de ce moment.
Ouais. En gros, PEPS c'est une organisation politique. Qui est issu des gilets jaunes et de l'écologie libertaire type Murray Bookchin, écologie sociale, tout ça, communalisme. Et en fait, nous, on a soutenu la lutte des habitants qui étaient déjà en train de se constituer. qui a commencé par le data center, mais qui s'est vraiment réorienté sur l'incinérateur. Et ACID, c'est l'association contre l'incinérateur de déchets à Vitry, ACID Vitry. Donc la mobilisation, en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux luttes se sont pas mal nourries. Par exemple, nous, on a fait venir les soulèvements de la Terre sur l'action initialement sur le sujet des data centers. Et quand ils ont entendu les paroles sur l'incinérateur, ils ont fait « Ah putain, il y a un sujet sur les incinérateurs dans le 94, on va s'en saisir. » Et inversement, il y a plein d'associations contre les incinérateurs qui ont entendu parler de la lutte contre les data centers. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on crée des alliances. Les alliances, et le terme de colonie, il vient d'où? Bon, d'abord, il vient du fait qu'on a vraiment, dans la façon dont le territoire est utilisé comme un territoire servant, un truc où les habitants ne sont pas consultés, mais où leur intérêt n'est pas pris en compte. La pollution face à l'incinérateur, elle est évidente. Et en plus, il y a l'incinérateur d'Ivry, juste en haut. Donc, quel que soit le sens du vent, les habitants, ils vont bouffer les pollutions des incinérations. Et souvent, on vous dit que ça va être des biodéchets, mais en fait, il faut l'alimenter en permanence, l'incinérateur. Donc, on va faire brûler plein de saloperies avec du plomb, avec des polluants sur les bois, etc. Pour faire tenir la carbonation. Donc ça marche pas, leur argumentaire. Par contre, là où ça vient aussi, c'est qu'on a cherché à mobiliser, pas forcément sur le NIMBY habituel. NIMBY, vous savez, c'est Not in my backyard, c'est un peu la façon dont les projets écologiques se constituent la plupart du temps. Ah non, on veut pas ça derrière chez nous. Là, on est dans une zone industrielle, donc en fait, les gens, ils sont pas directement le sentiment d'être impactés. Du coup, on a voulu aller sur le fond, directement. C'est-à-dire sur les sujets qui ont été développés par les copains avant, et moi je trouvais que les interventions de Marie, elles étaient quand même très pertinentes. En particulier, quand elle a cité un peu à la fin le Congo. Voilà. Un data center, qu'est-ce que c'est? Un data center, c'est une énorme quantité de serveurs informatiques qui vont tourner à plein régime en permanence, sauf que pour faire fonctionner un serveur informatique, un disque dur, vous le remplissez de plein d'objets techniques qui utilisent des terres rares, le coltan, le cuivre, le cobalt, etc. Et plein d'autres minéraux rares qui sont extraits dans très peu d'endroits dans le monde. En particulier en Chine, mais surtout aujourd'hui, dans le Nord Kivu, qui est la région frontalière entre le Congo et le Rwanda. Et en fait, il y a des milices rwandaises qui, là-bas, tiennent les différentes exploitations. Ils font quotidiennement des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes par viol, par féminicide. C'est une barbarie, vous n'imaginez pas. Il y a une politique de terreur pour que ce territoire reste un territoire d'extraction. C'est les enfants, hein, c'est des gamins qui vont extraire les matériaux pour ces trucs-là, et où on maintient la population dans la peur par une violence extrême, en particulier sur le corps des femmes. Et ça, il faut le comprendre, parce que quand on est dans la lutte contre un système, il faut comprendre sur quoi il repose. Il repose sur la violence vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des noirs. Et ça n'a pas attendu les data centers pour exister. L'esclavage, il n'y avait pas de technologie, mais on extrayait déjà de cette population africaine une quantité de ressources extraordinaires. Et en fait, on continue de faire ça sous de nouvelles formes. Et en fait, on refuse de le voir. On se dit que nos objets technologiques, ils sont virtuels, mais ils sont hyper charnels. Je veux dire, c'est du sang qu'il y a à l'intérieur. C'est le sang des Africaines et des Africains, c'est le sang des Congolaises et des Congolais qui sont aujourd'hui face à carrément une forme de génocide pour extraire les ressources qui sont dedans. Et nous, on a voulu mobiliser sur ça. Et pourquoi on a voulu mobiliser sur ça? Parce qu'on a voulu montrer qu'il y avait un continuum entre ce qu'il y a au début, à la racine des objets techniques, donc les terres rares, je pourrais rajouter aussi l'or, parce que l'IA, les applications d'IA fonctionnent avec des puces qui sont en or. Et quel est l'un des principaux producteurs d'or dans le monde? Le Soudan, où il y a une des guerres les plus meurtrières de l'époque actuelle. Et donc, on voit bien comment les ressources stratégiques sont toujours au centre de conflits hyper violents envers les populations, et souvent les populations des Suds. Donc, je vais finir, je sais, mais je veux juste aller un tout petit peu plus loin. Il y a un lien direct entre la source et la fin. Ça a été dit avec les histoires de bots, etc. Un data center, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ça sert à stocker ce qu'on appelle du slop, c'est-à-dire ces images générées par IA qui sont complètement vagues. Et en fait, ces bots-là, ils servent à créer de la désinformation et tout ça. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand vous entendez le vrombissement d'un data center, vous entendrez le nouveau bruit des bots. Parce que ces fausses informations, ce slop, etc., il ne sert un seul projet, qui est le projet fasciste. Et nous, on combat la nouvelle suprématie blanche qui cherche à s'implanter partout dans le monde grâce à ces technologies violentes que sont les data Center.
Merci. On peut switcher de place, comme ça je suis plus à côté de Pauline.
Pièce musicale.
Merci. Alors, Pauline Isambert, donc toi tu arrives d'à côté de Fougères. Et tu viens nous parler du Delta de Fuju. Alors, on est dans le plus loin possible d'une zone déjà industrialisée, extrêmement polluée, parce que ce qu'on appelle l'immense campus IA qui a projet, qui devrait s'installer dans votre coin, c'est en plein sur des terres qui vont très bien et qui s'en passeraient très bien, c'est ça ?
Du coup, moi je milite à la Confédération Paysanne Île-de-France. On siège dans les directions départementales des territoires qui sont liées à la préfecture, on t'en parlait tout à l'heure. Et du coup, j'ai été au courant de ça parce que je suis dans la commission environnementale qui est censée garder les terres à usage agricole. Donc, étant donné que notre projet à la conf, c'est d'installer des paysans, vous êtes tous les bienvenus pour le faire. On est contre toute forme d'artificialisation des terres agricoles, ça va de soi. Et donc, j'ai hurlé quand j'ai su de ce truc. Et du coup, j'ai appelé tous les écolos que je connais, j'en connais pas mal. Et tout de suite, il y a eu un début de collectif qui s'est créé assez vite, avec notamment les soulèvements de la terre et un peu la CGT et un peu Solidaire. J'ai vu dans le projet du data center de Fuju, c'est près de Melun, en Seine-et-Marne, et c'est dans ce projet, il y a notamment BPI France, qui est un des actionnaires. Et dans BPI France, il y a la CGT. Donc, mon premier réflexe a été d'appeler la CGT pour savoir qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et ils m'ont dit, on n'était pas très au courant, mais maintenant qu'on l'est, on va interpeller la direction. Et donc, ils nous soutiennent dans la lutte. Il y a le plus gros pays à l'origine, c'est les Émirats, de ce projet.
Là, tu es en train de parler des financements, c'est ça, à l'origine.
C'est les Émirats. Ensuite, il y a la France et il y a RTE qui fournit l'électricité. Et on nous a expliqué, oui, mais en fait, il le faut parce que nos consommations, machin chouette... d'intelligence artificielle, vous comprenez, voilà, c'est déjà plié. C'est Macron qui l'a voulu, du coup, c'est déjà fait, quoi. Et on peut pas se mobiliser contre, c'est foutu. Malgré tout, quand t'es militant, tu peux pas juste te dire, vas-y, c'est fait, c'est bon, quoi. Du coup, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est 89,5 hectares. C'est quand même énorme. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est quand même gigantesque. Et ce sont des terres qui sont cultivées.
Je te repose juste une question.
Oui, je te repose juste une question parce que je me suis aperçue qu'on s'était laissé enfumer par les discours dans le dernier article de Valentin sur la question, qui notamment mentionne le peu de crédit à accorder à la souveraineté de ce campus IA, puisque les capitaux sont majoritairement, ce que tu as dit, émirati et aussi états-uniens. Valentin en décrivait l'emprise comme faisant 70 hectares, ce qui était la communication apparemment officielle. Et donc, tu me dis qu'en fait, le mode de calcul, il serait logiquement différent. Tu peux expliquer ?
En fait, il y a un texte qui s'appelle le STRIF-E. C'est spécifique à l'Île-de-France. Ce texte dit qu'on a le droit d'artificialiser 70 hectares. Malgré tout, c'est un projet sur 89,5 hectares. Et le truc qu'on nous vend, c'est que, ouais, il y aura une... En fait, c'est 70 hectares, mais il y aura une petite bande sur le côté pour déplacer les espèces protégées, là. J'adore ce truc, parce que, genre, tu déplaces pas une espèce protégée que, comme nous, on déménage d'un appartement à un autre, c'est n'importe quoi. Et en fait, si tu calcules bien, si tu regardes la carte, c'est pas vrai, quoi. D'autant plus que ça chauffe, ça pompe de l'eau, donc en fait c'est une des conneries de déplacer, de dire oui, mais on va faire une bande écolo à côté, ça va aller, quoi. C'est n'importe quoi. Et voilà. Du coup, on en est à... Dans 15 jours, il y a les enquêtes publiques qui démarrent sur un mois. Et...
Je te laisse relire, mais j'avais une question parce que selon les lieux d'implantation de la CGT et des branches d'activité, on n'a pas forcément une prise de conscience de ce que suppose l'implantation des data centers ou de ce que suppose l'intelligence artificielle, son introduction dans les métiers. Comment est-ce que tu les as convaincus de s'intéresser à BPI France ?
C'est vrai. C'était facile. Non, mais c'est vrai. Je leur ai écrit et j'ai dit bonjour. Il y a BPI France qui investit dans Campus IA et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi vos positions ? Et du coup, il m'a dit, on n'est pas très au courant, mais du coup, c'est quoi et tout ça. Et du coup, je lui ai résumé, en gros, ce que c'était le projet, que l'intelligence artificielle, le FMI, dit que ça va quand même sucrer 40% des emplois dans le monde. C'est, je crois, 15 millions d'emplois, un truc comme ça. Et que, en plus, c'est sur des terres agricoles, donc ils ont tout intérêt à se mobiliser, selon moi. Ils m'ont dit, oui, d'autant plus qu'on n'était pas au courant, mais en plus, nous, en tant que syndicat, on n'a pas intérêt à soutenir ce genre de projet.
D'accord. Non, mais
donc c'était très facile à faire.
Tant mieux, ça dépend des gens. Et donc là tu terminais, donc tu voulais faire quelques points sur l'énergie.
Oui, et du coup j'ai eu l'occasion de parler avec eux de l'énergie, parce que du coup Fuju a été choisi parce que du coup c'est un énorme data center que apparemment ils peuvent pas mettre sur des zones déjà artificialisées. Enfin bref, on nous a jamais prouvé que, mais il paraît qu'on peut pas les mettre sur déjà des friches industrielles. Nous, on voudrait que ce soit déjà sur des friches. Déjà, on étudie tous les friches industrielles de France, et ensuite, on voit, quoi. Et peut-être on en fait des plus petits ou je sais pas quoi pour que ça rentre dans les friches industrielles. Malgré tout, j'ai... Et du coup, ça a été choisi parce qu'il y a une ligne à haute tension qui passe à Fuju et du coup, c'est très pratique parce que, vu qu'on a besoin d'énergie, voilà. Malgré tout, Fuju, c'est 630 habitants, un data center, il y a un projet de prison à côté et il y a un, et y a, un site d'enfouissement des déchets. Des déchets non, pas nucléaires, c'est bio, ça. Des déchets ménagers, quoi. Voilà, et du coup, il y aurait une consommation électrique de 200 000 foyers. Soit en un jour, en une demi-journée, ça consomme tout ce que Fuju consomme en un an. Et du coup, à la CGT, j'en ai parlé de ça, et ils m'ont dit, en fait, ça risque d'augmenter le prix de l'électricité, mais pour tout le monde.
Okay. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'important ? C'est bon ? J'essaye de rester sur un temps équivalent pour chacun d'entre vous. Merci, Pauline. De toute façon, on garde le temps de discuter autour d'un verre après. Et alors maintenant, on arrive à Vissou. Il y a un W, mais ça se prononce Vissou. Et donc, Philippe, toi, tu es engagé en tant qu'élu de l'opposition depuis un certain temps. Donc, tu as suivi d'une façon assez technique, de façon assez précise, les projets d'implantation des data centers. J'aimerais bien que tu nous décrives comment ça s'est amorcé et quand.
Bonsoir. C'est bon, là ? Nous, c'est une affaire qui commence en 2019, où on est prévenu de ce projet, d'un projet d'un data center de 100 MW sur un terrain de 55 000 m² et dans des bâtiments existants de 20 000 m². On est prévenu par un lanceur d'alerte qui nous donne les éléments principaux du dossier. Donc on passe d'abord quelques semaines à vérifier que c'est pas un bobard, et ensuite on lance l'opération de sensibilisation des populations, puisqu'on avait vu que c'était pas un bobard et on avait vu toutes les nuisances associées. Hein, sachant que le bâtiment dont je parle est à ras des habitations de Vissou, est à ras des équipements collectifs comme l'accueil collectif des mineurs, enfin exactement où il faut pas, et est, cerise sur le gâteau, évidemment pas à proximité d'un réseau de chaleur pour récupérer la chaleur, et pas à proximité non plus de lignes haute tension pour amener l'électricité nécessaire. Alors, ça les a pas effrayés, puisque dans la première mouture du projet, enfin, et en plus, et dernier élément, c'est dans une zone industrielle où ce type de grand projet n'était pas autorisé. Donc ça les a pas effrayés, puisqu'ils ont visiblement passé un accord avec le maire précédent pour modifier le PLU pour le rendre compatible avec le projet, un. Et deux, dans un premier temps, dans le premier projet, ils avaient dit « c'est pas grave, il n'y a pas les lignes électriques, donc on va faire de la cogénération sur place ». Parce que s'il n'y a pas les lignes électriques, il y a par contre une grosse conduite de gaz qui passe. Donc, on va installer notre mini-centrale à ras des habitations pour faire notre électricité.
Bon. Tu redis juste que c'est cogénération, parce que moi, c'est un mot
qui... Oui, alors donc, la cogénération, bah, c'est la possibilité pour un industriel ou pour une activité de faire eux-mêmes leur électricité. Et pour faire leur électricité, bah, il faut une source d'énergie primaire, et en l'espèce l'énergie primaire c'était le gaz qui lui passait à proximité avec tout ce qu'on sait, hein, combustion, CO2, etc. Donc on a hurlé d'abord, on a essayé d'hurler avec les médias, mais on a vite compris que ce n'était pas du tout le type de sujet qui les intéressait. On sent que la ligne éditoriale de
tout... Les médias locaux, tu veux dire ?
Enfin, le Parisien, en clair. Hein.
Oui.
Le Parisien, encore il y a quelques semaines, il y avait un nouveau journaliste qui savait pas, qui a fait un article très complet sur la chose. Il a eu le temps de le sortir dans l'édition numérique, mais c'est jamais sorti dans l'édition papier. Il nous a dit, je suis vraiment désolé, mais... hors de la rédaction, ils en veulent pas, c'est pas, voilà, ça va pas dans le sens du vent, quoi. C'est là qu'on voit la chape de plomb.
Donc. C'est juste que tu m'as expliqué que c'était en trois phases que c'était, voilà. Parce que...
Alors, tout à fait, donc, pour réussir à s'installer, puisque j'y reviens, le PLU le permettait pas, ils se sont dit, c'est pas grave, on va découper le projet, on va le saucissonner. Et ils sont alors les ICP. On vous l'a dit tout à l'heure, les data centers sont soumis à la législation des ICPE. Les ICPE, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est donc censé protéger les citoyens des activités polluantes. Et selon le type de niveau de pollution, il y a des procédures différentes. Dans le cas des data centers, c'est mesuré à partir de la puissance, et je suis un peu technique, désolé, mais c'est mesuré à partir de la puissance électrique de secours installée. Donc si c'est un data center de moins de 20 MW de puissance, à ce moment-là, il suffit d'une déclaration, vous remplissez le CERFA qui va bien, et vous l'envoyez à la préfecture, et c'est bon. Si par contre c'est plus gros, si c'est un data center de moins de 50 MW, à ce moment-là, il y a une procédure dite d'enregistrement, avec déjà certaines publicités et certaines procédures. Et si c'est plus de 50 MW, on se dit « oula, ça commence à chauffer ». Et là, c'est une procédure d'autorisation avec l'enquête publique dont mes prédécesseurs parlaient. D'accord ? Donc, pour éviter tout ça, ils ont rempli le CERFA en disant « voilà, on a un projet ». Alors, ils n'ont pas osé dire 19,9, mais ils ont eu le culot de dire 19,8 MW. Roule ma poule dans le CERFA, et ils se sont installés dans le bâtiment. Et dès qu'ils ont été installés dans le bâtiment, enfin je dis dès que 10 mois après, ils ont dit oups, vous allez rire, on vient de rouvrir le dossier et on s'aperçoit qu'il y a une phase 2 à 49,5. Là encore, ils ont osé dire 50. Alors, la phase 2 quand même les a obligés à sortir, à publiciser un certain nombre de choses. Et donc, on a eu la confirmation de ce qu'on nous avait déjà dit au départ, mais on n'avait pas la preuve, hein, que, en vérité, c'était bien un projet global qui allait aller à 100 MW. Mais le fait de rentrer comme ça par tranche, permet d'enfler la chose petit à petit, quoi. Ça réagit moins.
Et donc, du coup, c'est sur ce thème de défaut d'information du public ou d'information mensongère, pour le moins, ou insatisfaisante, que vous avez attaqué le projet. Tu peux redire ça.
Voilà, tout à fait. Donc, alors on a participé à la procédure donc d'enregistrement. Mais la préfecture s'est assise dessus. Donc, a sorti quand même son décret, puisque c'est ce que disait quelqu'un, à partir de ce niveau-là, il faut un décret d'exploitation, d'autorisation d'exploitation. Donc la préfecture a sorti son décret d'autorisation d'exploitation. On a fait un recours d'abord gracieux contre ce recret, cet arrêté. Évidemment, ils se sont assis dessus. Et donc, on a fait un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Alors, ça paraît tout con, hein, mais à partir du moment où vous faites ce type de choses, c'est un moyen de lutte. Enfin, toutes ces sociétés ne financent pas ces projets sur fonds propres. Elles ont à mettre une partie de fonds propres, puis le reste, elles empruntent. Sauf qu'il n'y a pas une banque qui va aller leur prêter du pognon sur un projet où, à propos, vous avez le droit de l'exploiter. Ben non, pas encore. Donc, le fait de les empêcher d'avoir cette autorisation d'exploitation pratiquement gèle le projet, hein, puisqu'ils n'ont plus les financements complémentaires pour la mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est, entre guillemets, que c'est efficace. Cela étant, bien que tout démontre que ce soit un projet global, bien que cerise sur le gâteau, leur conseiller a eu la maladresse d'écrire à un moment de manière officielle à la mairie, on a eu le document, que s'ils s'arrêtaient à la phase 1, ils avaient un vrai problème, parce que, et c'est écrit noir sur blanc, hein, parce qu'ils avaient déjà vendu à leurs clients, à WS, l'intégralité de la capacité, et donc, et c'est encore écrit noir sur blanc, ils s'exposaient à des pertes en centaines de millions d'euros. Et malgré ça, le tribunal administratif de Versailles et, il y a 15 jours, la cour d'appel disent non, ça démontre pas que c'est un projet global. Peut-être que ces gens-là avaient envie de perdre des centaines de millions d'euros. Prends-moi pour un con. Donc, on est un tout petit peu agacé, et je le dis gentiment, et donc on se pose la question de continuer pour les bloquer et peut-être avoir une chance de gagner, d'aller au Conseil d'État, si ce n'est que, c'est en partie pour ça que je suis là, donc c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pas gratuit, donc on va dans les 10 jours qui viennent lancer une cagnotte pour nous aider à financer l'opération, parce que pour le Conseil d'État, il faut un avocat spécial qui, vous allez rire, se fait payer. Donc, ou vous en connaissez un qui est prêt à bosser gratuitement sur ce dossier médiatique, et ça m'intéresse, et ça peut l'intéresser, parce que on est les premiers à faire ça, et c'est sur un vrai sujet, ou si vous pouvez à terme participer à cette cagnotte et faire participer à cette cagnotte, ce serait encore mieux. Le dernier élément que je voudrais dire, puisque je tiens le micro, c'est un point qui n'a pas été abordé quand on parle de la soi-disante indépendance, souveraineté nationale, etc. C'est que dans notre cas, comme dans d'autres, hein, l'exploitant, dans notre cas, il s'appelle Cyrus One, donc c'est une boîte américaine basée à Dallas, côté au Nasdaq. Son client, c'est AWS, donc une boîte américaine aussi Amazon, vous le savez. Et donc, toutes les deux sont soumises au Patriot Act. Et le Patriot Act, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que n'importe quel sous-fonctionnaire remplaçant, même pas adjoint, de n'importe quelle agence de renseignement américain peut, sans le contrôle d'aucun juge, ni américain, ni français, exiger de ces entités-là, sur le fait qu'il sent bien que madame avec les cheveux, là, oula, elle doit être suspecte, celle-là, et bien donc, je voudrais donc avoir l'intégralité des données numériques que vous stockez sur madame, et puis aussi celle sur monsieur qui a les cheveux longs, là aussi, ça me paraît suspect, et donc, je voudrais aussi l'ensemble. Et ils les obtiennent comme ça. Et on vient nous parler d'indépendance nationale, de souveraineté numérique.
Je suis... Bon, alors, il y a une dame qu'on a vue partir à la pause tout à l'heure qui nous a dit « Écoutez, moi, je m'en vais, ça me déprime trop. »
Bon, ben voilà, ben là on termine sur une note bien réjouissante. Alors je retiens que on va tous boire un coup là. Ouais, peut-être que ça sera plus simple. Mais donc on retient appel du côté de Wissou et appel aux médias du côté de Fouju, parce que Pauline disait que c'était pas assez médiatisé. Et je passe le micro. Est-ce que quelqu'un... Moi je saute pas, je suis pas...
Merci. Merci. À quel point est-ce que l'argument de l'emploi est utilisé par les promoteurs des projets ? À quel point c'est un argument qui pèse ?
Tu veux répondre ? Tu commences aux absorptions d'impôts ?
Ouais. L'emploi, c'est pas trop un... C'est pas trop un argument qu'ils utilisent. Ils vont l'utiliser un peu des fois pour faire genre, mais faut quand même être consciente qu'un data center, à part les vigiles et un peu de maintenance des circuits d'aération et des trucs, ça crée pas du tout d'emploi. Donc c'est un argument que si il est utilisé, vous êtes super content dans votre bus parce que vous allez pouvoir les canarder dessus. Y a pas de problème.
Oui, bien sûr. Il y a la proportion dans le dernier chiffon sur, je sais plus, c'était un investissement de 50 milliards pour, je dis des bêtises, mais genre 16 emplois, quoi, ça fait cher de l'emploi.
Ouais, du coup, nous, au Bourget, c'est un argument qui a été utilisé dans... Le maire a utilisé le journal municipal pour faire un peu de propagande. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que ça va créer... La filière recrute entre 1000 et 2500 emplois directs par an. Donc ça fait, en France, exactement. Donc en fait, ça fait beaucoup mieux de dire ça que de dire, en fait, au Bourget, il y aura 80 emplois à tout péter. À la Courneuve, il y a le plus grand data center de France actuel, si ça n'a pas changé, parce que ça change tous les jours, qui est absolument énorme, 40 000 m², 250 mètres de diamètre, c'est un stade, et 1 milliard d'investissements ou plus, et il y a moins de 50 emplois, en fait. Jean-Marie du MNLE, qui nous aide dans notre lutte, nous disait en comparaison que l'installation industrielle qui était présente avant le data center, c'était plus de 1000 emplois, en fait. Donc ça donne un élément de comparaison. On est plus que sur du facteur 10, donc ça crée rien, en fait. Mais c'est utilisé quand même comme argumentaire. Voilà.
Juste sur l'emploi, je pense qu'ils utilisent aussi l'argument de l'emploi pendant la phase chantier. Bref, ça c'est pour l'anecdote. Non, moi j'avais une autre question sur le. Alors je sais plus qui c'est qui en a parlé, peut-être c'est Merlin. Sur la recette fiscale, les recettes fiscales qui sont issues, qui sont permises par ces chantiers, puisqu'on voit que les élus. Certains élus ne s'opposent pas ou même les appellent de leur vœu. J'ai du mal à voir quelles sont les recettes fiscales spécifiques qui tombent dans l'escarcelle des collectivités par la taxe foncière.
Merci.
La réponse est dans la question. Ça dépend en effet de savoir si c'est un nouveau bâtiment ou pas. Si c'est dans un ancien bâtiment, les recettes fiscales, c'est zéro. Puisqu'il y a un célèbre arrêt Orange qui dit maintenant que tu ne fasses pas de valeur ajoutée dans le bâtiment ou que tu en fasses beaucoup, le montant est le même. Donc ça ne change rien. Par contre, si c'est un nouveau bâtiment, à ce moment-là, oui, il y a l'impôt sur le bâtiment.
Bonjour, merci pour toutes les... Oula, on entend. Ok, merci pour toutes les interventions. Je voulais juste refaire un appel pour préciser ce que disait Pauline sur l'enquête publique du projet Campusia à Fouju, qui fera 500 emplois et 1000 en phase chantier, d'après ce qu'annoncent les porteurs de projet, mais ils sont sûrement un petit peu optimistes. Enfin, pessimiste, enfin, ça dépend comment on voit les choses. Mais du coup, il y a une enquête publique qui aura lieu du 30 avril au 30 mai. Et donc nous, au Soulèvement de la Terre, mais avec la Confédération Paysanne, FNE et toutes les organisations que Pauline a citées, on va lancer un appel à participation à cette enquête publique. Donc voilà, c'est le premier appel non officiel, mais appel quand même à participer à cette enquête publique. Du 30 avril au 30 mai, et il y aura un registre numérique comme pour toutes les enquêtes publiques. Donc il n'y a pas besoin d'aller à Fouju en Seine-et-Marne pour répondre. Vous pouvez donner vos propres arguments en ligne. Voilà. Et merci pour les interventions.
Merci. Mais on ira à Fouju en nombre, hein, je pense. Il y avait encore une question.
Mais dernière.
Ouais.
C'est pas vraiment une question, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas que, comme à un moment, il était question de à quoi ça sert tout ça. En une seconde, sur Google, on a des millions de réponses qu'on n'aura jamais le temps jusqu'à la fin de nos jours de toutes les lire. Donc à quoi ça sert? Voilà, une illustration est parfaite de la chose.
Bon, en tout cas, merci infiniment et de votre attention et de votre présence et de votre déplacement. Je suppose qu'on relaiera dans la prochaine lettre d'information du Chiffon les appels à participation aux enquêtes publiques. Et ben merci à vous. Contre les data centers et leur monde.
Bonsoir.
Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flots sur le trottoir de la rue des Lilas.
Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
La rue des Lilas, la rue des Lilas,
plus jamais revoir la dune. Au matin, quand s'efface mes pas, jamais plus les cimes et la neige éternelle, l'oiseau bleu brillant de mille éclats.
Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
La rue des Lilas,
la rue des Lilas,
j'aimerais tant voir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le dapké pour repousser la mort, traquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire au faiseur de m'enfuir sur là.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Car la guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas,
qui ne se contrefient,
de gens qui profitent,
de gens qui
mais qui ne se massacrent pas.
Car la guerre, c'est un massacre
de gens qui ne se connaissent pas,
au profit de gens qui toujours se connaissent,
mais qui ne se massacrent pas.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas.
Cause commune, 93.1, la voix des possibles.